Bonsoir Aude Lavigne, on vous retrouve demain pour un nouveau carnet de la création. Bonsoir à toutes et à tous. La dispute. Ce soir, le cinéma. Ce soir, Corinne Rondeau et Noémie Luciani se font face à notre sommaire. Théo et Hugo dans le même bateau, d'Olivier Ducastel et Jacques Martineau. Nos souvenirs de Gus Van Sant et l'exposition Gus Van Sant, icône à la Cinémathèque française. Nous parlerons aussi plus rapidement de la saison des femmes de Léna Yadav et dégradée de Arabe et Tarzan Abou Nasser. Vers 21h20, Antoine Guillot nous livrera la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute. Cadeau à gagner ce soir, des invitations pour l'exposition La Franc-Maçonnerie jusqu'au 24 juillet, la BNF, site François Mitterrand à Paris. Enfin, nous avons rendez-vous avec le chef d'orchestre et directeur de l'Opéra National de Bordeaux, Marc Minkowski, qui est toute cette semaine l'invité de la dispute. Mais c'est avec la voix de Ronit Elkabetz que j'avais envie de débuter cette émission une semaine après l'annonce de sa disparition brutale à 51 ans. La comédienne et cinéaste israélienne, nous avons eu la chance de la recevoir plusieurs fois sur cette antenne. On va écouter un extrait de Tout arrive. Le 9 septembre 2009, c'était au Forum des Images. Antoine Guillot et Corinne Rondeau étaient là. À mes côtés, Ronit Elkabetz était venue ce jour-là en compagnie de Fanny Ardant, qu'il avait dirigée dans son film Cendres et sang.
On est attiré par des choses et c'est la justesse, elle arrive de notre intimité le plus profond. Et quand j'ai dit, en fait, c'est toujours que je crois à tout moment. Tout peut arriver chaque moment. Et je peux changer d'avis chaque seconde, c'est-à-dire je suis pas stable parce que je suis fidèle à moi-même avant tout. Je ne peux pas être fidèle à quelqu'un d'autre avant que je sois fidèle à moi-même. Et moi, je change parce que j'y reste éveillée. Et cette femme, elle est très très éveillée. Éveillée, ça veut dire, voilà, à un moment donné, j'ai envie de réparer cette vitre et le lendemain, absolument de la casser parce que je suis pas ni des coudes, ni des codes, ni des strictes rules. Parce que si je les suivre, c'est pour bien les casser. Et je parle de, c'est ça qui est tellement vraiment intéressant, c'est-à-dire d'écrire une histoire avec des codes inventés, enrichit toujours les personnages, l'histoire, tout. Et en fait, ça relève vraiment la justesse parce que, en fait, les codes viennent de l'intimité. C'est l'homme qui a inventé les codes. Les codes ne sont pas là, ils sont pas tombés du ciel. Et si ça est inventé par les hommes, c'est parce qu'il y avait des peurs et aussi il y avait de la liberté. Il y avait tout. Alors comme il y a tout, je vis tout en moi. C'est-à-dire quand je travaille un personnage, quand j'imagine une scène, je vois tout. Tout est possible. J'obéis à rien, à rien. C'est-à-dire je crois que un seul instant peut contenir tous les sentiments possibles, avec toutes les contradictoires possibles. Et c'est exactement ce qui me ressemble, et ce qui m'attire, ce que j'ai envie d'y être, quoi.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et nous ouvrons à présent véritablement cette dispute avec le nouveau film d'Olivier Ducastel et Jacques Martineau, Théo et Hugo dans le même bateau, 5 longues années après le précédent, un très beau film également, L'arbre et la forêt. Beaucoup d'impatience à découvrir ce nouveau long métrage qui commence par une longue, très longue, près de 20 minutes, séance dans un sex-club homo de Paris où nous allons assister à un coup de foudre.
Tu as toujours les yeux fermés. Je suis avec toi. Je suis mieux avec toi.
Thank you.
Théo et Hugo, dans le même bateau. Le film sort demain sur les écrans. Je commence avec vous, Corinne Rondeau.
Ah voilà, un film que j'aime beaucoup, je dois dire. Et dès le début, d'abord parce que c'est un film que je trouve culotté, et un film bien vivant, et un film dont la naïveté ou la dimension sentimentale, finalement, n'a pas, je dirais, de contradiction avec lui-même. Donc effectivement, c'est un film qui va aussi durer le temps de ce qui s'y passe. On commence à 4h27, non pas dans un sex club, Arnaud Laporte, mais dans un naked bar. On se met au bar tout nu d'abord et on descend ensuite encore nu de la même manière.
Et si donc, je cherche dans l'annuaire, il faut que je cherche un naked bar.
Oui, puisqu'en plus il cite le lieu, c'est l'Impact, c'est un lieu dans Paris qui existe. Que je ne fréquente pas, malheureusement.
Que pour les garçons.
Et oui. Et donc, on commence là. Je dois dire que la dimension photographique et la mise en scène est absolument formidable dans ces premières 20 minutes qui commencent donc à 4h27. On rentre dans ce lieu où il y a des corps partout. On rentre dans cette musique aussi qui, peu à peu, vient imprégner effectivement les corps. Et les corps eux-mêmes s'imprègnent, etc. Et puis, comme vous l'avez dit, il s'agit d'un coup de foudre. Et ce coup de foudre va être merveilleusement mise en scène, dans la couleur, où d'un coup, on voit bien que le rapport sexuel du multi-partenaire qu'il peut y avoir dans ces lieux-là, où les pratiques homosexuelles, en tout cas les pratiques gays, entre le condom à disposition, le préservatif qu'on va mettre, on va chercher le gel, etc., etc., ces corps qui se regardent, et puis évidemment il se passe aussi des choses absolument formidables. Quand la pulsion est arrivée au point d'acmé, il se trouve qu'on peut se voir, et non pas que reluquer ou être un voyeur de ce qui se passe, mais on peut rentrer dans une sensualité, et donc ces 20 minutes sont vraiment un moment où on va passer de la sexualité à la sensualité, où là ça va se rencontrer. Et puis le temps file, effectivement, et puis il faut sortir. Et je dois dire que pour moi, ce film a été à la fois une rencontre avec ce milieu-là qu'on peut avoir, je trouve qu'il est particulièrement bien filmé, et puis aussi tout ce que ça peut être à la sortie d'un naked bar, dans ce Paris qu'on peut connaître nocturne, et un Paris, vous savez, un peu comme le vers dans Les Enfants du Paradis de Prévert, hein, Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un si grand amour. Et je trouve que les balades nocturnes ensuite qui vont avoir lieu jusqu'à l'hôpital Saint-Louis, puisque l'aventure, c'est que l'un des deux garçons est séropositif et que...
Ça pose problème.
Ça pose problème. Et là, l'heure tourne aussi. Et vers quoi va-t-on ? Eh bien, nous allons vers de belles choses, je crois.
Bon, premier regard de Noémie Luciani avant de revenir vers vous, Corinne.
Je dois dire que j'ai eu un peu plus de mal que Corinne à rentrer dedans. Alors, vous pourrez me traiter de prude si ça vous chante, mais 20 minutes de scène de sexe, parce que c'est quand même ça aussi explicite, j'avoue que j'ai eu un peu de mal à trouver sans cesse de nouvelles choses à regarder, on va dire. Effectivement, il y a un dispositif qui est très intéressant. Il y a ce jeu de lumières colorées, des rouges, puis après des bleus, je crois, qui vont arriver, etc. Donc ça met très à distance. Et il y a tout ce travail sur le regard, où on rentre par le regard d'un homme dont on ne saura rien de plus par la suite, qui va lui, en fait, nous guider jusqu'au regard de quelqu'un d'autre.
C'est
Cupidon. Qui est le regard, voilà, en quelque sorte, qui est le regard désirant, puis ce regard désirant qui va devenir finalement regard amoureux. Maintenant, je dois quand même avouer que sur les 20 minutes, au bout d'un moment, j'ai eu du mal à rester dedans. Et j'ai un petit peu attendu que ça passe. En revanche, une fois que c'était passé, j'ai trouvé que la bouffée d'air qu'on a en ressortant, effectivement, comme le disait Corinne, il y a cet effet très fort de qu'est-ce qu'on fait avec ce côté en même temps très, très singulier. Quand on s'est rencontré dans ce genre d'établissement, qu'on se retrouve dehors, habillé en civil, si j'ose dire, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on se dit. Là, il se passe quelque chose qui est à la fois... Alors, il y a beaucoup de maladresse En même temps, il y a quelque chose de très touchant parce que ces deux personnages qui ne parlaient pas ou à peine à l'intérieur du bar se retrouvent là à parler deux langues complètement différentes. C'est-à-dire qu'on en a un qui ne dit quasiment rien et l'autre qui se met très vite à lui faire des espèces de déclarations qui sont extrêmement lyriques. Alors, il va lui dire quelque chose comme qu'il a l'impression qu'ils ont fabriqué de l'amour, qu'ils ont contribué à la paix dans le monde, enfin des choses comme ça. Et à ce moment-là, l'autre qui était en train de penser à autre chose lui dit c'est sûrement très bien, mais j'ai pas entendu tout ce que tu m'as dit. Et le film va être construit comme ça, et ça, c'est pour moi la vraie magie du temps réel, cette magie qui est très rare et quand c'est réussi, je trouve vraiment très forte, d'arriver à se ménager comme ça des choses très intenses dans cette première déclaration d'amour, parce que c'est déjà ça, et en même temps de les mettre en contraste avec des choses très triviales, de l'ordre de je n'ai pas entendu ce que l'autre était en train de me dire, ou bien qu'est-ce qu'on va manger si on s'arrêtait à acheter un kebab, etc. Et du coup, ça crée un mélange que je trouve à la fois très vrai, et en même temps avec vraiment cette magie, j'ai déjà dit ce mot, mais ça me vient vraiment facilement sur ce film-là, de la nuit parisienne et des toutes petites choses, et je trouve ça vraiment très touchant et très réussi.
Bon, alors moi je veux dire, quel joli film pour continuer là-dessus. Non mais vraiment, c'est évidemment pas péjoratif, parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti en le découvrant, et parce que c'est quand même... on a parlé de cette ouverture radicale, osée, avec cette épiphanie de la rencontre amoureuse, et puis cette errance nocturne dans les rues de Paris, et puis on est en été, donc ça, voilà, il y a une, on sent presque l'air de la nuit, on imagine, en plein mois d'août, où la ville est plus calme, et il faut quand même être très très gonflé pour oser mêler comme ça un film avec des aspects pornographiques à une bluette amoureuse, et ça, je trouve ça vraiment extrêmement réjouissant, parce que c'est vrai qu'il y a cette ouverture, puis une autre séquence un peu plus loin où on voit la sexualité, voilà, filmée, sans phare, mais c'est aussi un feel-good movie, c'est un film de l'espoir, de la tendresse, de la force inattendue de l'amour, parce que, alors, bien sûr qu'il y a au premier plan le risque de la contamination par le sida, mais le risque dont il est question, c'est le risque de l'amour. C'est qu'est-ce qui se passe quand on tombe amoureux, quel risque on prend, qu'est-ce que ça peut changer dans la vie, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. C'est une question de vie ou de mort, mais c'est un risque à prendre. C'est voilà, est-ce qu'on le prend, est-ce qu'on suit ce chemin-là. C'est un risque qu'on ne choisit pas parce qu'il y a ce coup de foudre, mais c'est un risque qu'on prend si on a envie de poursuivre l'aventure. Donc ça, c'est évidemment l'enjeu très réel du film. Il y a quelques faiblesses sur lesquelles je reviendrai bien volontiers, mais vraiment, je suis très heureux que ce film-là existe. Je trouve que ça fait un bien fou de voir arriver un objet aussi inattendu. Enfin, il ressemble à aucun autre, ce film, Corinne Andon.
Ah non, mais moi je l'ai vu trois fois. Hein. Vous savez, je ne me suis pas du tout fatiguée, même pendant les premières 20 minutes.
Ah ouais, moi non plus, c'est un peu difficile par moment. Enfin,
j'ai pas du tout. Je trouve qu'il y a une espèce d'accompagnement dans les 20 minutes qui, justement, soit. On arrive à voir le point de bascule où la pulsion devient du désir.
Ça, c'est très
et
vrai.
Pour
c'est
arriver vrai. À faire ça dans ouais, une ouais. mise en scène où tous les mecs sont à poil en train de se s'astiquer, de s'enfiler et de se sucer, bravo les mecs, quoi. Je veux dire, c'est un truc absolument prodigieux. Et que d'un coup, effectivement, comme vous le dites, Noémie, d'un coup, cette espèce d'environnement asphyxiant, parce qu'à l'intérieur de l'asphyxie qu'il pouvait y avoir dans cette espèce de d'amas de corps comme ça, où en fait, il y a la dimension amoureuse qui est le point de tout le monde se sépare de vous. C'est-à-dire, vous êtes tous comprimés, mais vous ne voyez que lui. Et c'est le point, je dirais, d'amour absolu. Que ce soit deux mecs ensemble, deux filles, ou un homme ou une femme, je veux dire, le problème n'est pas là. Et je trouve que d'ailleurs, ce film ne s'adresse pas qu'à la communauté gay. Parce que ce que vous venez de dire, d'ailleurs, sur le propos de prendre des risques quand on est amoureux, savoir ce que c'est que la vie, parce que toute la dimension du film est quand même orphique. C'est la fin du film. Oui. Ne te retourne pas.
Sinon, tu
Don't
perds
look
tout.
Back, baby, quoi, grosso modo. Ne vous retournez pas. Donc, c'est rien et c'est tout. C'est cette fragilité qu'il y a dans la vie. Comment parler, comment le langage peut venir après du sexe, comment le corps, qui est un corps qui est ultra pulsionnel et qui est, voilà, on ne sait plus finalement ce qu'il peut rencontrer, sinon des zones de corps érogènes et son propre corps, d'un coup s'adresse à quelqu'un. Et à l'intérieur de ça, la glissade dans le langage qui est, mais merde, mais... tu voilà, je suis séropositif, tu n'as pas fait attention, je suis séropositif. Et d'un coup, avec je dirais, une simplicité que d'aller aux urgences. Il faut le dire à tout le monde, puisqu'on sait que quand même le taux d'augmentation de la transmission du VIH est en augmentation aujourd'hui. C'est simple comme un bonjour d'appeler pour dire à AES, accident d'exposition sexuelle, on a un traitement, c'est traité à l'hôpital Saint-Louis, dans le quartier où il se trouve, avec simplicité là aussi. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de dramatisation. Il y a juste quand même ce que ça peut être. Ce qu'il faut faire, et pour tout le monde. Est-ce que tout le monde sait que quand on a été contaminé ou supposé être contaminé, dans l'heure qui suit, on peut prendre un traitement sur 28 jours qui pourrait permettre de ne pas être contaminé. Il faut le dire à tout le monde, je veux dire, et pas ceux qui sont qu'à l'impact, par exemple.
Bien sûr.
Et je trouve que 20 minutes voilà, de sexe, 20 minutes de pédagogie aussi, parce que c'est ça, mais sans vouloir jouer la carte de la pédagogie avec la simplicité, puis les autres 20 minutes qui consistent à dire on se tourne autour, qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? Bon, ben voilà, moi j'ai trouvé que c'est vraiment la simplicité, avec effectivement ce côté un peu sentimental qui est parfois un peu, mais vous l'avez dit, ça se déplace, donc... On finit par y être attrapé. Je regrette un peu ces trois personnages qui sont au cours du film, où là, moi, j'ai trouvé que c'était...
Voilà, les rencontres
sont ratées. Mais bon, c'était pour accompagner, je crois, ces deux garçons au bout de quelque chose, dans le commun, avec les autres, etc.
Mais ça reste anecdotique regard du film.
Oui, absolument. C'est de l'intention. Bon, cette intention est là, bien. Mais je trouve que... Et moi, je dois dire que même à la fin, on peut avoir la larme à l'œil.
Ah ben bien sûr.
Pour les enfants du paradis, vous savez, c'est comme Baptiste et Garance. Baptiste qui dit « Ah, mais que vous êtes belle !» Et elle lui répond « Je ne suis pas belle, je suis vivante. » Eh bien, ce film vous rend vivant.
Antoine Guillot, est-ce qu'il vous a rendu vivant, ce film ?
Extrêmement vivant, même si j'ai moi aussi quelques réserves, notamment sur certains dialogues un peu trop écrits, à mon goût, pas toujours très bien dit. Mais j'ai surtout été frappé, moi, par le... C'est rare qu'au cinéma, on ait l'impression d'être ici et maintenant. C'est-à-dire d'avoir un film d'aujourd'hui, extrêmement contemporain, mais pas dans le sens noble du terme, mais vraiment un film d'aujourd'hui. Et c'est très frappant parce qu'il réactive des éléments qui viennent de la nouvelle vague, qui sont un tournage léger, un peu dans l'urgence, pirate, comme ça, avec ce temps réel qui était celui de Cléo de 5 à 7, etc. Mais en nous donnant quelque chose vraiment immédiatement d'aujourd'hui, et même picturalement parlant. C'est-à-dire que la force de ces images et simplement de voir deux garçons dans la nuit faire du Vélib en discutant, on a l'impression d'y être, et ce d'autant plus frappant qu'une grande partie du film se passe, évidemment c'était pas prévu et ça leur est tombé dessus, mais dans le quartier où ont eu lieu les attentats du 13 novembre, c'est-à-dire qu'ils passent dans la rue, devant les cafés, etc. Et c'est aussi cette villa qui est j'ai pas pu m'empêcher en tout cas de faire le rapprochement, c'est aussi cette villa qui a été attaquée. Et ce film nous parle, nous parle immédiatement, et de façon très urgente, comme ça, très énergique. Je trouve ça très impressionnant. C'est un film d'aujourd'hui.
Et il faut dire que c'est Manuel Marmier qui signe la photo de ce film, qui est absolument somptueuse. Donc il faut aussi noter ça. Et les deux interprètes principaux, pardon, du coup je m'en éloigne du micro, Geoffroy Couette et François Nambeau, qui sont quand même des corps et des comédiens. Noémie Luciani, encore un mot sur ce film, Théo et Hugo.
Effectivement, comme le disait Antoine, moi j'ai été très sensible à ce rattachement à l'histoire a posteriori du film, et c'est le fait qu'il prend donc un double sens dans cette continuité de la vie, à la fois la vie après attentat, la vie après une possible contamination par le sida. Et je trouve que il y a là-dedans, c'est une histoire d'Eros et Thanatos, avec effectivement, comme le disait Corinne, une dimension orphique, et avec une sorte de triangulation de l'humour et de la légèreté. Eros, Thanatos, et cet humour, cette légèreté qui fait que ça crée une sorte de formule de vie, en fait, de formule de continuité dans le sourire, dans l'humour. Et j'ai été moi aussi très émue. Je trouve que c'est un film qui fait beaucoup de bien.
Oui, vous vouliez ajouter un dernier mot, Corinne ?
Oh, et la musique de Karel Akuntur. Ouais. J'adore.
Avec un morceau d'Asaf Avidan aussi dans la première scène, qui n'est pas rien non plus. Bon, voilà.
Sur la fin.
Ouais.
Ce morceau-là.
Ah oui. Nous vous recommandons donc tous quatre, Théo Hugo dans le même bateau. On va voir quel type de distribution le film va avoir, à combien d'écrans. Mais vous le savez, les premières séances sont importantes. Donc si vous le pouvez, demain, allez au plus vite voir Théo et Hugo dans le même bateau d'Olivier Ducastel et Jacques Martineau, qui sort donc demain.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Nous parlerons tout à l'heure de Gus Van Sant en film et en exposition. Avant cela, on retrouvera l'invité de la dispute, le chef d'orchestre Mark Minkowski. Nous évoquerons aussi plus rapidement la saison des femmes de Lena Yadav et dégradée de Arab et Tarzan Abou Nasser. Toujours upgradé, la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute avec Antoine Guillot. C'est à vous, cher Antoine.
Merci Arnaud Laporte. Festival de Cannes suite encore les mêmes à Cannes. Chaque année ou presque, relais Alain Grasset dans Le Parisien. C'est la même rengaine après l'annonce par le délégué général Thierry Frémaux des 20 films sélectionnés en compétition. Le fait qu'on retrouve des réalisateurs habitués de la croisette comme Pedro Almodovar, Jim Jarmusch et plusieurs lauréats de la Palme d'Or, à l'exemple de Ken Loach et des frères Dardenne, mais aussi qu'ils n'ont pas encore eu comme Sean Penn et Olivia Assayas. Tout cela relance la polémique. Pas moins de 14 réalisateurs sont déjà venus à Cannes dans le passé. Beaucoup de festivaliers remarquent qu'il est dommage qu'on choisisse trop souvent les mêmes metteurs en scène, selon un distributeur. À l'appui de cette assertion, Le Parisien publie un tableau des réalisateurs les plus sélectionnés avec un trio de têtes constitué de Ken Loach, Wim Wenders et Woody Allen, avec respectivement 14, 13 et 12 sélections officielles, suivent avec seulement 10 Carlos Saura, Jean-Luc Godard, Lars von Trier, Manuel de Oliveira et Nanni Moretti. C'est vrai, cette année, la compétition fera la part belle à des gens dont vous connaissez le travail, a répliqué Thierry Frémaux lors de la conférence de presse, mais il souligne, il y a aussi deux nouveaux entrants. Woody Allen a fait un film merveilleux et ne devrait pas être accueilli à Cannes, plaide-t-il encore dans une interview aux Parisiens. On doit éliminer tous les cinéastes connus. Or, quatre réalisateurs figurent pour la première fois en sélection et une dizaine ne sont pas venus souvent. Dans les années 1960, rappelle-t-il, les abonnés s'appelaient Fellini, Bergman, Tarkovsky ou Antonioni. Pas mal, non? Cette question est absurde, dit encore Thierry Frémaux. Le Louvre doit-il décrocher la Joconde et le 100 mètres olympique se priver d'Usain Bolt? À la fin de l'année, les films de Cannes sont dans tous les palmarès et se retrouvent consacrés par les Oscars ou les Césars. Les meilleurs films sont réalisés par les meilleurs cinéastes et les meilleurs cinéastes aiment Cannes. Chaque année, il y a bien des gens nouveaux, mais comme ils sont talentueux, ils reviennent et deviennent des habitués. C'est QFD. Thierry Frémaux aurait pu exciper pour sa défense de ce cinéaste qui, s'il n'est venu que 5 fois en compétition, a tout de même remporté 2 palmes d'or et n'est pas pour autant sélectionné cette année, Emir Kusturica, puisque c'est lui qui se plaint justement de ce refus dans le Guardian. Pour lui, si Cannes a rejeté son dernier film, On the Milky Road, c'est parce qu'il soutient Poutine. Dernièrement, la politique a de plus en plus souvent interféré avec la façon dont le festival de Cannes fonctionne, a déclaré le cinéaste serbe au Russian News Service dans des commentaires rendus publics ensuite par le Hollywood Reporter. Je soupçonne que quelqu'un a donné l'ordre que mon film ne soit pas accepté. Kusturica a révélé qu'il avait présenté son film avec 1 jour de retard au festival, mais qu'il ne croyait pas que son retard avait inspiré la décision des dirigeants de Cannes parce que ses raisons n'avaient jamais été un problème avant. Le film a été présenté, mais personne ne l'a même regardé, assure-t-il. Le réalisateur, qui a remporté la Palme d'Or en 1985 pour Papa est en voyage d'affaires et 10 ans plus tard pour Underground, a été un fervent partisan de Poutine au cours des dernières années. Il a été interdit de se produire en Ukraine l'an dernier après avoir déclaré son soutien à la politique du président russe dans l'ancienne République soviétique. Kusturica, n'a d'ailleurs montré aucun remords. Il a ouvert un concert à Paris dernièrement aux côtés de son groupe No Smoking Orchestra avec l'hymne national russe. La première de On the Milky Road aura finalement lieu au festival Pont des Arts dans la ville russe méridionale de Rostov-sur-le-Don. En août, nous apprend encore le Guardian. L'auteur du Temps des Gitans appréciera-t-il le nouveau film du duo Christian Clavier-Philippe de Chauvron? Alors que, comme le rapporte une brève du Parisien, ce n'est pas OK pour Jacouille et Godefroy de Montmirail, les visiteurs La Révolution ne totalisant que 1 739 479 spectateurs en France après 2 semaines d'exploitation. Pour amortir son très gros budget, il aurait fallu que les visiteurs 3 atteignent au minimum les 5 millions d'entrées en France. Un score donc désormais impossible. Au mieux, la comédie de Jean-Marie Poiré arrivera à 2,5 millions de spectateurs. On annonce donc les retrouvailles entre le réalisateur de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et son acteur principal 2 ans après le succès de cette comédie qui avait totalisé plus de 12 millions d'entrées. Le plus embarrassant dans l'histoire, commente Bruno Renaud Hichard dans Télérama, c'est peut-être le ton prime sautier avec lequel le distributeur SND a annoncé le tournage imminent de cette nouvelle comédie de Philippe de Chauvron intitulée « S'il vous plaît », titre à l'international « Please » et dont le pitch a jeté un léger froid. Un intellectuel de gauche, joué donc par Christian Clavier, un rôle de composition, marié à une riche héritière, mise tout sur son prochain roman qui invite les citoyens à accueillir chez eux les gens dans le besoin. Au cours d'un talk show, un journaliste met l'intellectuel au défi d'appliquer ce qu'il préconise. Une famille de Roms de 9 personnes débarque ainsi chez le couple. Résumons, gauche caviar, plus démagogie et malhonnêteté des élites, plus invasion des étrangers, une addition qui trouve un écho pas drôle du tout sur la scène politique. Le réalisateur reste donc fidèle à Christian Clavier et au filon de la grosse rigolade sur le thème du racisme, montant de 2 bons crans dans le poujadisme ambiant. On attend son projet suivant avec une certaine anxiété. En attendant, commente Libération, il y a une future candidate à l'élection présidentielle qui cherche un réalisateur pour son clip de campagne et elle aussi aime beaucoup Vladimir Poutine.
On se demande pas qui c'est, j'imagine. Non, mais c'est vrai que c'est très, très inquiétant. Comme ça, après, on verra le film. En salle, parce qu'on risque de ne pas nous le montrer avant, j'imagine. Est-ce que vous avez subi les visiteurs 3, Noémie, ou
non,
vous
avez non, je n'ai pas eu la chance qu'on me le montre avant la sortie.
Vous auriez fallu en salle, hein. Ça aurait fait 1 700 000.
Et je n'ai pas eu la ténacité suffisante.
Moi non plus, j'avoue pas encore. Antoine, vous avez...
Non, je me suis fié aux avis de nos collègues critiques qui, eux, se sont fait un devoir d'y aller. Et quel que soit le journal, c'est catastrophique.
Ouais, bon, le bouche à oreille est là. Qui fait que le film s'enlise. Hein. Bon, Corinne Rondeau ne nous demande pas si vous avez été voir Les Visiteurs 3.
Non, mais vous savez,
quoi
moi,
que la Hugo perversion
Théo,
peut se...
ça m'a pris 3 fois. Imaginez, j'allais voir 3 fois Les Visiteurs.
3 fois Les Visiteurs 3, ça fait
9. Finalement, c'est pas un bon film, je crois.
Bon, pour ce qui concerne Emir Kusturica, bon,
ça, je veux quand même rassurer les auditeurs que nous allons voir aussi des comédies populaires.
Mais bien sûr, on va en voir et on en parle ici et on parlera, je ne sais pas si elle sera populaire, mais on parlera de Maggie à un plan la semaine prochaine, qui sort lui aussi demain, mais enfin on parle aussi de toutes sortes de films dans cette émission, et encore heureux. Kusturica, on ira voir à reculons, parce que ça fait quand même très longtemps qu'on
faut aller à Rostov sur le Don pour le voir.
On le verra en VOD directement en France, vous croyez? Ça fait très longtemps. Non, ça fait longtemps.
Il y a Monica Bellucci dans le film, donc il va peut-être avoir une sortie sale.
Ouais. Ah oui, bon, ça ne garantit pas non plus. C'est quoi son dernier bon film, Kusturica, Antoine Guillot? C'est un quiz minute, attention.
Écoutez, Underground était idéologiquement compliqué, mais c'était quand même un bon film, je trouve.
Ouais. Donc ça fait quand même très longtemps.
20 ans.
Et quant au Festival de Cannes et ses jurés, Arnaud Desplechin sera dans le jury.
Bah écoutez, Thierry Frémaux s'est réconcilié avec Bruno Dumont, il se réconcilie aussi avec Arnaud Desplechin.
Bon, que de réconciliation, ça fait plaisir.
C'est magnifique.
C'est magnifique. Bon, si on donnait des recommandations pour aller voir des films qui arrivent dès demain dans les salles, enfin je crois que c'est le cas, non parce que la saison des femmes est sortie la semaine dernière, donc je dis une bêtise.
Oui, absolument.
Donc pas mal de nos éditrices et auditeurs l'ont déjà peut-être vu, mais celles et ceux qui hésiteraient vont écouter à présent Noémie Luciani.
Alors, de quoi ça parle? C'est une fiction indienne qui est très ancrée dans le réel, puisque c'est un portrait de 4 femmes dans un village dans la province reculée du Gujarat. Un portrait très engagé, avec un tableau des femmes opprimées, qui sont en même temps des femmes qui résistent de manière très visible, ou parfois très peu, mais qui résistent quand même. Et c'est réalisé par Lena Yadav, qui est donc une réalisatrice indienne, qui a été monteuse de pub, qui a fait beaucoup de télévision. C'est son 3e long métrage, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle avait fait 2 longs métrages à Bollywood, et que là, c'est son 1er long métrage indépendant. Alors, ça se voit dans le sens où c'est pas vraiment une rupture avec Bollywood, elle en a gardé les codes, il y a des scènes chantées et dansées, explosion de couleurs, tout ça, mais ces codes-là prennent un sens très différent, parce que par exemple, les scènes chantées et dansées, ce sont les scènes qui vont permettre à la prostituée du film, Bijli, qui a trouvé dans la prostitution une forme d'émancipation, de vendre son corps. C'est un personnage à la fois de reine et d'esclave, un peu comme la Satine de Moulin Rouge de Baz Luhrmann, qui est aussi un film bollywoodien. Donc ce qui fait qu'on avance en terrain connu si on s'est un peu intéressé au cinéma bollywoodien, et en même temps, dans la signification de ces codes-là, c'est complètement renversé, avec un ton très neuf, très vif, une colère qui monte à mesure du film, mais à un degré assez... assez incroyable, puisqu'à la fin, dans l'intention, on est quasiment au bord du rape and revenge, enfin quelque chose de très très noir, de terrible vraiment dans la colère, même si on n'est pas dans l'explicite au niveau des images, et encore, les images sont très explicites par rapport au code du cinéma indien, même encore assez récent. Ce qui fait qu'on a à l'arrivée un ensemble qui, moi, m'a semblé vraiment ne ressembler à pas grand-chose de ce que j'avais pu voir dans le cinéma, même le nouveau cinéma indien, qui est absolument formidable et qui donne des merveilles à découvrir. C'est très vivifiant et c'est en même temps très émouvant parce que c'est aussi quatre actrices absolument formidables. Donc voilà, une expérience de cinéma que je recommande très vivement.
La saison des femmes de Lena Yadav, qui est déjà sur les écrans depuis mercredi dernier. Demain sortira Dégradé de Arab et Tarzan Abou Nasser, que Corinne Rondeau veut évoquer à présent. Parce qu'il y a des couleurs sur l'affiche. Hein.
Oui, des couleurs, parce qu'en fait, le film se présente... D'abord, c'est un huis clos où 13 femmes se trouvent dans un salon de coiffure. Nous sommes à Gaza.
Ah, d'où le dégradé.
Et le dégradé, c'est... Oui, le dégradé, c'est la coupe de cheveux.
Fais-moi un dégradé.
Alors, fais-moi un dégradé. Et l'affiche est très colorée, parce que ça pourrait être une comédie, finalement, mais ce n'est pas non plus le traitement que vont en faire les frères jumeaux Nasser, qui sont beaux comme des dieux, leurs cheveux et leurs yeux pleins de colle. Il y en a un, d'ailleurs, qu'on voit jouer, mais c'est aussi montrer ce que peut être sur deux faces tragico-comiques la situation du peuple gazaoui, qui est évidemment la représentation du huis clos de ce salon de coiffure, l'enfermement lui-même, c'est-à-dire ce peuple est enfermé entre quoi ? Entre ceux qui veulent résister et puis un gouvernement islamiste qui est le Hamas. Et donc ce film dégradé vient notamment d'un fait divers de 2007 où une famille qui voulait avoir un peu le pouvoir, qui était aussi des notables, on va dire, qui voulaient montrer leur insoumission à l'égard du Hamas, ont volé le lion du zoo. Sauf que le Hamas, pour taper un peu sur ceux qui voulaient être plus forts qu'eux, bah, ils sont allés chercher le lion pour le remettre au zoo, mais qui était un prétexte aussi pour dire les patrons, ici, c'est nous. Et donc, en fait, voilà l'histoire de ce lion qui est à l'extérieur, de ces hommes qui sont à l'extérieur de ce salon, et toutes ces femmes qui vont, en fait, être la multiplicité de ce que peut être une femme aujourd'hui à Gaza comme ailleurs, qui ont leur fragilité au moment où effectivement la tension va se mettre en jeu à l'extérieur avec les coups de feu qu'on va voir, puisque le rideau va être tiré et là d'un coup on va être vraiment enfermé avec une femme qui est enceinte, qui va peut-être accoucher pendant que tout le monde est en train de se tirer dessus. Et donc en fait ce qui est beau, c'est cette manière dont ils sont capables de filmer la féminité dans tous ses aspects, de la droguée à la musulmane, de la divorcée à la gérante du salon qui est une Russe, qui est là parce que elle a épousé un Palestinien, de cette jeune femme qui va être épousée, de celle qui va se faire épouser. Enfin, et tout ça, ça circule. C'est une très grande drôlerie. En même temps, on voit ce qui se passe à l'extérieur aussi, dans ce qu'elle raconte. C'est-à-dire, celle qui est la plus forte, finalement, c'est aussi celle qui est frappée par son mari. Alors, les questions de couple, bien sûr, y sont. La question de culturelle, y sont. Mais en fait, ces femmes de Gaza ne sont pas différentes des autres. Et il y a des moments extrêmement drôles, d'ailleurs. Celle qui est droguée, qui a une choupa choupe en permanence à la bouche, dit à celle qui est voilée, tu devrais te faire faire un carré, tu serais une bombe. Alors, ça vous fait pas rire, mais moi, ça m'a fait hurler de rire. D'ailleurs, il y a plein de petites choses comme ça qui vous conduisent à avoir une intimité avec ces personnages, finalement, parce que ça pourrait être dans un Pedro Almodovar, on pourrait dire, dans ses meilleurs moments. Et puis, à la fin, c'est à quel point, finalement, cette humanité et cette vie est fracassée par la bêtise. Et que, finalement, cet enfermement, c'est l'enfermement d'eux avec... ils ont mis le microscope là-dessus, mais c'est aussi l'enfermement qu'on peut vivre par ailleurs. Je rappelle qu'ils ont été interdits pour un court-métrage Condom Lead, pour pornographie, parce qu'il y avait deux pieds qui se touchaient dans un lit, quand même. Hein. Ils font quand même du cinéma, là où le Hamas a détruit les dernières salles de cinéma, où on ne peut pas faire de cinéma. Et le film, son degré de résistance, il se dit très clairement, hein, se faire les ongles en pleine guerre, c'est déjà résister. Et le film, c'est rien que ça, et c'est tout. Et donc, bravo, bravo, bravo les frères Nasser.
Antoine Guillaume opine.
Ah oui, oui, moi j'ai vu ce film, il était à Cannes l'an dernier, à la semaine de la critique, et j'avais d'abord découvert effectivement les réalisateurs dans un ascenseur avec leur dégaine, et ayant l'air de sortir d'un ashram, ils sont très grands et très beaux effectivement, mais le film est formidable parce qu'il passe en plus graduellement de quelque chose de très comique, comédie à l'italienne, vers des scènes de cauchemar absolu, avec un traitement du son extraordinaire pour nous faire ressentir la guerre qui se passe dehors, et puis il y a la très grande Iyam Abbas qui joue dans le film, c'est déjà une raison, ne serait-ce que celle-là, pour aller voir le film.
Bon, Dégradé, bah, je vais y aller hein, demain. Arab et Tarzan Abou Nasser réalisent ce film.
C'est un film sur la guerre qui est plus juste que tous les films sur la guerre qu'on ait vu sur le conflit israélo-palestinien ou même des fratries, enfin, de ce qui se passe au Gaza. Moi, je trouve que c'est vraiment. Et Antoine a raison de signaler la puissance sonore du film. Souvent, les explosions nous les montrent. Et là, comme on est enfermé derrière ce rideau de fer, ça prend une dimension anxiogène. Alors, on est passé vraiment des rires à l'angoisse, quoi.
Bon, Dégradé. Je note ça sur mon agenda. Sur mon agenda, j'ai lu ça hier. J'espère que dans 5 ans, on sera là pour parler, lui aussi, du nouveau film de Francis Ford Coppola. Vous avez vu qu'il va peut-être enfin réaliser son rêve de faire une grande fiction en direct. C'est ce qu'il voulait faire avec Coup de cœur, mon film préféré. J'ai déjà dit ça 500 fois à cette antenne au début des années 80. Et là, il l'a dit. Il a 77 ans, Francis Ford Coppola. Il a dit, ça va me prendre 5 ans, mais je vais y arriver. Je vais faire un film performance qui sera réalisé en direct et qui sera projeté en même temps dans toutes les salles du monde. C'est dans 5 ans.
Ah bah écoutez, où serons-nous ?
On lui souhaite d'y être et nous aussi au rendez-vous. Donc voilà, c'est une petite prévision. Mais ça m'a fait tellement plaisir de lire ça que voilà, je voulais partager cela avec vous. Dans quelques minutes, nous parlerons de nos souvenirs, le dernier film en date de Gus Van Sant et de Gus Van Sant Icône. C'est l'exposition qui se déroule en ce moment à la Cinémathèque française à Paris jusqu'au 31 juillet. Avant cela, on retrouve l'invité de la dispute. Cette semaine, nous la passons avec Marc Minkowski, chef d'orchestre, directeur de l'Opéra National de Bordeaux, qui a toujours une riche actualité qu'on peut retrouver sur le site franceculture.fr à la page de l'invité de la dispute.
Enchanteur, comment allez-vous ? Très bien, merci.
Marc Minkowski, dans votre vie bien remplie, le temps pour le cinéma, je l'imagine, est assez compliqué à trouver. Je parle pour aller dans les salles, parce que les voyages en avion, en train, ça permet peut-être de regarder des films sur d'autres supports. Ça a quelle place, le cinéma, dans vos nourritures ?
Une grande place sentimentale, une moins grande place dans les fêtes, pour le temps, mais quand même... Je trouve qu'il y a des aventures cinématographiques et musicales aussi qui sont exceptionnelles, qui sont mémorables. Le travail de Stanley Kubrick, par exemple. Je crois qu'on n'entend plus le... Pour nous, personnages du 21e siècle, je crois qu'on n'entend plus les ouvertures de Rossini, de La Pivoleuse ou Le Beau Danube Bleu depuis...
Depuis Orange Mécanique, voilà. Ou 2001, Odyssée de l'espace.
Absolument.
Sans parler de Beethoven aussi, revisité.
Oui. J'ai aussi des souvenirs de Ken Russell et Tchaïkovski assez étonnants. Et puis non, sinon, voilà, moi j'ai des goûts très éclectiques. J'aime la comédie, j'aime les films muets, j'aime Buster Keaton. J'ai des souvenirs de voir tous les Buster Keaton à la pagode avec mon père quand j'étais tout petit, avec mon grand-père qui habitait en face, le psychiatre de Babylone, accompagné par mon père le pédiatre, j'étais bien entouré déjà. Aujourd'hui, j'aime autant Star Wars que des découvertes comme Chocolat, que j'ai vu récemment, avec le magnifique James Thierry, que je ne connaissais pas bien, et que j'ai découvert par le cinéma. Je crois qu'en général, c'est quelqu'un qu'on découvre en live, mais c'est comme ça que je l'ai connu. Et j'ai adoré ce film avec Catherine Deneuve et le gamin, là, qui a été...
La tête haute.
La tête haute, voilà.
Emmanuel Berco.
Voilà, voilà. Et ce magnifique acteur qui a été nominé au César, parce que vraiment, il crève l'écran. Voilà, j'aime voir des choses comme ça. J'aime voir Star Wars, j'aime voir que Star Wars renaît un peu de ses cendres après des années difficiles.
Vous faites pas partie des déçus, ce nouveau volet vous a réconcilié avec la trilogie d'origine.
Déçu en bien, on va dire.
Déçu en bien, mode suisse.
Moi, je suis un inconditionnel de l'Empire Contre-Attaque, donc voilà, ça faisait longtemps que Je trouve qu'on ne vous regardait pas ces films sans se dire, oh là là, c'est tellement moins bien qu'avant. Bon, là, je trouve que ça va un petit peu mieux quand même. Et il se trouve que quand je répète, alors j'ai beaucoup de références cinématographiques. Les musiciens aiment bien ça. Il y en a quelques fois qui ne comprennent pas, mais grosso modo, ça m'aide vraiment avec un acteur ou un cocktail d'acteurs à faire comprendre ce que j'ai envie d'obtenir.
Alors, vous pouvez dire quoi, par exemple? Vous pouvez dire... Vous faites des références à Dark Vador ou à Catherine Deneuve?
Ça peut arriver. À Angelina Jolie, par exemple, si on a envie de...
Elle sert quand, Angelina Jolie?
D'un phrasé très léger, si on est dans le son génie d'été de Mendelssohn, par exemple.
Enfin, ouais. Voilà. Donc ça parle, effectivement. C'est une bonne façon de diriger aussi.
Aujourd'hui, voilà, on
c'est le référent.
On est dans une société où on a des tas de références comme ça. C'est pas la peine de les ignorer et de se draper dans notre noblesse musicale classique, etc. Faut être un peu en accord avec son temps.
Puis le cinéma et la musique, hein, sont des arts qui ont parti liés depuis longtemps. Alors avec des bonheurs et des choses moins heureuses, mais par exemple, puisque pour ce qui vous concerne, beaucoup de jeunes musiciens se sont initiés à la musique par des succès comme Farinelli. En son temps, Amadeus aussi a eu un impact important. Les opéras au cinéma, c'est plus compliqué, mais vous regardez ça comment, ces films qui touchent un vaste public?
Je pense que ce sont des très bonnes démarches. Moi, j'ai eu le Don Juan de Lozay a complètement orienté mon goût cinématographique et musical sur Mozart quand je l'ai vu, quand c'est sorti en salle. Avec beaucoup de gens autour de moi qui me disaient c'est nul, c'est pas ci, c'est pas ça. Bon, mais voilà, non, c'était un grand moment. J'ai eu la chance de faire quelques opérations un peu cinématographiques. J'ai fait un Messie de Handel avec William Klein. Un vrai film d'art et d'essai, oui, très peu diffusé, qui était un moment incroyable. Enfin, il est allé filmer des chorales amateurs aux États-Unis en train d'interpréter le Messie, en les superposant avec notre interprétation avec les musiciens du Louvre en studio, qu'il a filmé d'ailleurs abondamment, avec son œil inimitable. C'était un grand moment.
Mais on peut le voir comment, ce film?
Il y a un DVD balade, qui doit être épuisé, qui va être rediffusé et réépuisé. Il y a des petits bouts sur Internet, je crois, qui se circulent. Et j'ai aussi la chance, alors que je déteste être filmé, je déteste être enregistré aussi, mais oui, je le fais quand même. Non, pardon. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal avec les médias en général. Et en même temps, je suis assidu spectateur de télévision sur des personnes qu'on découvre aussi avec la radio, mais avec l'écran de manière très, très intime. Bon. Et donc, j'ai été filmé par Philippe Béziat, produit par Philippe Martin, les films Péléas, justement. Pendant la réalisation du Pélas et Mélisande à Moscou avec Olivier Pie, ça donnait un très beau film dont je suis très fier. Le Chant des Aveugles, le Pélas ou le Chant des Aveugles. À voir, à poursuivre.
On va chercher ces DVD. Nous poursuivons cette dispute consacrée le mardi soir au cinéma avec un film et une exposition dont le point commun est Gus Van Sant. Le film s'intitule « Nos souvenirs ». Il a changé de titre. Il avait été reçu plus que fraîchement sur la Croisette l'année dernière. Il nous arrive donc sur les écrans français alors même qu'il n'est pas sorti, je crois, aux États-Unis. On va y suivre Arthur Brennan, c'est le nom du personnage, venu se suicider dans la forêt d'Aokigahara au pied du mont Fuji.
So I have another showing tomorrow. Well, how about a quick lunch so I can pick up something on the way over?
Tomorrow I'm pretty busy.
You don't care. Your mind's always somewhere else.
What about you, Arthur?
My article?
Yeah.
It's a fantastic article.
Have you read it, John?
No.
She doesn't read my work.
Oh, you think it's right that your wife does all the heavy lifting so you can pretend to be an intellectual?
I see you stop by the bar.
I'm a grown woman.
That's an alcoholic.
Funny how the so-called alcoholic's the one who pays the mortgage.
I'm done trying to make amends with you.
Well, you shouldn't be!
Well, I am. We can't keep doing this.
The MRI detected a small mass.
How risky is the surgery?
It's a highly invasive procedure.
Could I die doing it?
It's possible.
You believe in God?
I'm a scientist.
God is more our creation than we are his.
If God is not waiting for you on the other side, who is?
A few years ago, I had an affair. I gave her a reason to drink. It was an excuse to drink.
Things are not as they seem here. It is during our darkest times that our loved ones are closest.
I don't want to die, Arthur. In some cold, empty room surrounded by people who are only there because it's their job to be.
What's your favorite color?
You don't know my favorite color.
What's mine?
It's always that moment, you know? Life-changing moment that knocks us on the floor and reminds us what really matters.
Do you love her?
More than anything on earth.
Eh bien, à écouter comme ça, moi j'ai pas vu le film, hein, donc, mais j'ai l'impression que c'était le son d'une publicité, vous savez, à la mi-temps du Super Bowl, un truc comme ça. Alors, c'est pas parce qu'il a été mal reçu à Cannes que c'est forcément mauvais signe. On commence avec vous, Noémie Luciani, pour ce nouveau film de Gus Van Sant.
Oui, bah écoutez, je vais continuer dans votre sens, c'est-à-dire que je pense que le son, c'est l'un des principaux problèmes du film. Alors moi, j'ai l'esprit de contradiction, je n'avais pas vu le film à Cannes l'an dernier, je l'ai vu il y a quelques semaines, et j'aurais aimé pouvoir dire, en fait non, je vais vous démontrer que c'est le film du siècle. Bon, là, avec toute la meilleure volonté du monde, je ne vais pas y arriver.
C'est même pas celui de la semaine.
Il y a quand même beaucoup de choses que j'aime dedans, mais qui sont plus des bribes, des morceaux de film. J'aime ce début où le film est justement quasiment muet. On voit le personnage donc, qui quitte les États-Unis, qui monte dans l'avion jusqu'à Tokyo en ayant échangé deux mots complètement factuels avec l'employé de l'aéroport et qui arrive dans cette forêt dont on ne sait rien au début et qui est vraiment quelque part entre la forêt de symboles baudelairienne et le jardin des supplices de Mirbeau, c'est-à-dire complètement labyrinthique avec des panneaux sur le seuil qui pourraient être les panneaux d'entrée dans l'enfer. Votre vie est précieuse. Il y a des rubans colorés qu'il faut suivre comme pour s'enfoncer. Il sera fait référence plus tard au petit poussé. Il y a des espèces de gris-gris suspendus aux arbres. Puis on va voir des choses de plus en plus inquiétantes. Une paire de chaussures abandonnées au pied d'un arbre, etc. Et on va rentrer comme ça progressivement dans l'angoisse avec un langage qui est purement visuel. Et moi, je trouve que juste à ce moment-là, c'est vraiment très réussi. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de, justement, de l'ordre du pressentiment qui nous saisit en permanence à mesure que le personnage avance. Et j'étais vraiment dedans.
Ça dure combien de temps, ça ?
Je sais pas, mais pas très longtemps, peut-être un quart d'heure, un quart d'heure, 20 minutes.
C'est déjà ça.
Et puis, ce qui va se passer, c'est que on va se mettre à parler beaucoup. Et avant de se mettre à parler beaucoup, il va y avoir de la musique. Alors effectivement, là, c'est la grosse, grosse musique de Mason Bates. Et je dois dire que ça, c'est quelque chose qui vraiment me surprend beaucoup de la part de Gus Van Sant, qui a toujours des choix musicaux, je trouve, vraiment pointus, quoi, intéressants, en rapport avec ce qu'il fait. Et là, je trouve qu'on a vraiment l'impression qu'on a plaqué sur le film une musique qui n'était pas pensée pour, qui sort de nulle part, qui est énorme, c'est-à-dire vraiment d'un lyrisme dégoulinant qui semble, on dirait qu'il y a un grand panneau qui clignote à côté de l'écran avec écrit pleurez ou soyez émus ou applaudissez, je ne sais pas, enfin j'étais assez consternée. Et ensuite, le personnage principal va rencontrer un autre personnage qui est un japonais qui ne veut pas mourir. Alors ça, qui ne veut plus mourir, ça, au demeurant, je trouvais ça assez intéressant. Ça m'a fait penser à un film qui est sorti à la fin de l'année dernière, un film indépendant américain qui s'appelait Before I Disappear de Sean Christensen, qui racontait l'histoire d'un pauvre type qui veut se suicider. Et dans la nuit, il va y avoir des tas de coups du sort qui vont l'empêcher de se suicider. Le film était assez drôle, assez léger, assez noir en même temps. Sauf que là, à mesure qu'on parle, plus on parle, plus on va expliciter, en rajouter dans le sens et entraîner également la grande marche vers les souvenirs avec un système de flashback où on va s'enfoncer, mais vraiment au sens littéral du terme, dans la vie de couple triste du héros.
Bon, on va faire un tour de table rapide pour évoquer l'exposition de la Cinémathèque. Corinne Rondeau sur le film.
Écoutez, oui. je crois qu'il a. Bon, je crois que Gus Van Sant, sur les derniers films, là, il a un peu perdu sa grâce qu'il avait pu avoir dans la. Pour moi, j'appelle pas la, enfin que j'appelle la trilogie de la mort, Jerry, Elephant et Last Days. Pour moi, là, il y avait de la grâce chez lui. Par un Paranoid Park, ça m'avait pas trop plu. Alors
oui,
là,
mais entre temps, il y a aussi des films plus lourdeaux. Hein,
oui,
même, hein.
Non, mais bien sûr.
Il est un peu comme deux fils.
Il est toujours en montagne russe. Bon, oui. Là, je trouve que déjà Promised Land, ça avait été au secours. Là, je trouve qu'il retrouve ses obsessions, le double. Il retrouve l'obsession de l'autre. Alors, il les fait effectivement se décliner autour de sa filmographie avec plus ou moins de réussite. En l'occurrence, ici, effectivement, je crois qu'il a cherché à être dans l'inéluctable. Il faut aller au bout de cette chose-là, qui est ce grand mouvement, effectivement, où c'est le silence qui aurait dû tomber. Et Noémie a tout à fait raison sur cette manière d'être un peu dans l'incertitude de cette entrée dans cette forêt qui est en fait un parc de suicidés, quoi. Et donc là-dessus, le flashback sera en fait la croix du film. Il va falloir la porter jusqu'au bout. Hein. C'est un clou de plus dans la croix à chaque fois, parce qu'il faut aller jusqu'à cette
inéluctable élité.
Voilà, c'est ça. Il cherche à atteindre ce point où on ne peut plus reculer, c'est ça. Et donc, en fait, ce qui m'intéressait dans les films que j'aimais chez lui, c'est quand il suspendait le sens. Et c'est pour ça que quand il est visuel et moins de dialogue, il est fort. Dès que ça parle, il est dans la polysémie. Et alors là, la polysémie qu'on va avoir à la fin du film, elle n'est pas à pleurer, elle est à « où est la sortie ?» quoi. Voilà. Donc, c'est un film que je trouve particulièrement décevant. Parce que j'ai eu beaucoup d'affection pour nombre de films de Gus Van Sant.
On garde cette affection pour ces films-là,
qui
sont importants, dans l'histoire récente du cinéma. Mais on est d'autant plus triste, du coup, quand on a affaire à un film d'un auteur dont on a aimé beaucoup certains films.
Oui, c'est sûr.
Déçoit.
Mais alors, dans le catalogue de l'exposition, il y a des textes qui peuvent éclairer, je pense, ce travail en montagne russe de Gus Van Sant. D'abord, il dit dans un entretien qu'il est très influençable. Il est dans une diversité d'influences.
C'est bien ça, Dolité.
Alors c'est bien parce que d'une certaine manière, ça veut dire qu'il est tout le temps en collaboration. Et ça, on le voit dans les écrits qui ont été faits sur lui ou lui-même. On voit que son travail est tout le temps avec Matt Damon, Ben Affleck.
Quand on voit Will Hunting, c'est pas la même chose que Elephant ou que c'est...
Et là, on se dit, mais peut-être qu'il n'a été jamais que celui qui a pris l'air du temps. Et peut-être que cette période, cette époque, est une époque où, en fait, il y a une grande faiblesse. Et d'ailleurs, il y a un article, je ne me rappelle plus de l'auteur du catalogue, mais qui dit qu'il y a peut-être quelque chose des images mécanisées, sans âme, qui viennent détruire quelque chose du cinéma. Peut-être que, finalement, l'excuse que je ferai à Gus Van Sant, c'est que peut-être qu'en prenant en charge cette forme d'appauvrissement au cinéma, lui-même, par mimétisme, ferait ces espèces de trucs de mou, de grande mollesse, de trucs un peu populaires, les coups, l'histoire de coups, faut pleurer, j'ai perdu ma femme, patati patata.
Antoine Guillot sur le film, quelques instants.
En fait, il y a un peu la même schizophrénie chez Gus Van Sant que chez un Tim Burton, par exemple, qui est à la fois voudrait être un grand cinéaste de studio et faire de la mélasse hollywoodienne, et d'autre côté, travailler son univers. Donc, mais comme ils font pas partie de ces cinéastes de studio, comme pouvait l'être un John Ford, par exemple, par excellence, qui travaillait son univers à l'intérieur des formes, dès qu'il se colle aux formes hollywoodiennes, c'est une catastrophe. Et le film est exactement ça, il illustre cette schizophrénie. C'est-à-dire, moi, je trouve les scènes de forêt formidables et merveilleusement filmées. Effectivement, je suivrai Matthew McConaughey marchant dans cette forêt pendant une heure et demie sans aucun souci. Et puis de l'autre côté, il y a la mélasse, c'est-à-dire le mélo épouvantable avec la femme qui va mourir et on s'en fiche complètement. Et il le fait comme si il faisait lui-même la caricature de comment il faudrait faire ce genre de film à Hollywood. Donc évidemment, ça ne marche pas. Alors ce qui est intéressant, ce qu'on découvre dans l'exposition, puisqu'on va y aller, c'est que de même que les mouvements de caméra dans Elephant de dessiner la forme d'un éléphant, ici, les mouvements de caméra pour filmer la forêt ont été tirés au sort. C'est-à-dire qu'il y a, un côté de réintroduire justement du hasard, une forme poétique, celle de la Beat Generation, sur des collages presque surréalistes comme ça, en tirant d'un coup de dé pour savoir comment est-ce qu'on va filmer cette forêt. Et ça obtient un résultat qui est formidable, que je trouve vraiment très très beau. Donc voilà, c'est un film complètement schizophrène, malade mental, au dernier degré. Quoi.
Bon, que vous ne conseillez pas vraiment, hein, si je fais la synthèse de vos propos.
Non.
Non, non, petit non, petit non.
Pour la forêt, moi je pense.
Non, mais c'est vrai que l'acteur est génial. Heureusement qu'il a un corps, parce que ce corps, quand il est blessé et qu'il ne fait que marcher, je me dis, mais bon, il prend tout l'écran, quoi. Il est formidable.
Il a un charisme physique rare.
Non, mais même quand il pleure, il est très très beau. Enfin, je veux dire, on a envie qu'il continue à pleurer pendant la minute.
Oui, il faut peut-être pas qu'il parle et qu'on le.
Oui, non, mais là, c'est le flashback qui détruit tout.
Quelques minutes à peine nous reste pour la Cinémathèque française, cette exposition. Comment elle est.
Alors, elle est classée par médium. Je dois dire que le catalogue Cinémathèque Actes Sud est beaucoup mieux que l'exposition. Je trouve que vraiment le classement par médium appauvrit énormément les croisements qui auraient pu être faits. Le catalogue, lui, ne rechigne pas trop à faire ce genre de croisement. Et puis, ce grand entretien qui est essaimé tout au long du texte, avec 4 essais à la fin. Moi, je trouve ça plutôt bien. Ça remet en perspective et ça remet vraiment Gus Van Sant dans un travail collaboratif. Effectivement, les seuls moments de l'expo où j'ai trouvé super, c'est le Thanksgiving's Prayer de William Burroughs qu'on voit et que j'ai trouvé formidable. Et d'un coup, oui, il y avait quelque chose du cut-up mal fait de Gus Van Sant au début, avec tous ses portraits en Polaroid.
Tout jeune homme, hein, aussi, au
début. C'est mal foutu, c'est trop vide, il y a quelque chose, alors que c'est un mec de l'intimité, Gus Van Sant. C'est quelqu'un qui est dans une côté de... Il est dans la caresse, comme ils le disent dans les articles, il y a quelque chose d'un enveloppement, là. Je trouve que c'est très éclaté, c'est une erreur d'avoir fait, à mon avis, par médium, et c'est très cheap, pour moi, comme accrochage, alors qu'on pourrait faire, même avec du cinéma et des photos, faire d'autres choses. Même si c'est pas un grand peintre, bon, je pense ça aurait mérité de penser autrement qu'un médium après l'autre, la photo, la vidéo, les clips, la peinture. Mais vraiment, le catalogue vaut vraiment la peine de Actes Sud, Cinémathèque, ça, Icône, ça vaut vraiment la peine de faire un petit tour dedans. Je trouve que les essais très courts sont efficaces.
Noémie Luciani sur l'exposition.
Oui, moi je suis assez d'accord avec Corinne. Je pense que l'organisation par médium n'est pas extrêmement pertinente parce que justement, on parlait tout à l'heure Antoine parlait de Tim Burton. Je me souviens de cette expo Tim Burton où là, il a cette particularité que le moindre petit graffiti sur une nappe en papier, on savait que c'était du Tim Burton. C'est pas la même chose pour Gus Van Sant, et justement à cause de toute cette question de l'influençabilité. Donc du coup, je trouve qu'on a besoin d'être un peu conduit quoi à travers tout ça, parce que on a l'impression que Gus Van Sant n'est pas présent de la même manière tout ce qu'il fait. Il y a une question de degré et qui se pose, qui est justement la question intéressante sur ces films, et notamment effectivement sur celui-là qui ne semble personnel que sur certains points et pas sur la totalité. L'expérience de l'exposition, elle répète un peu ça, et je trouve qu'on aurait, oui, mérité
ce qui m'a semblé, il n'y a pas de lisibilité de son travail, en fait, du coup, avec cette séparation. Antoine, est-ce que vous avez ressenti les mêmes choses ou vous avez d'autres réflexions?
Déjà, j'étais content parce que ça aurait pu être pire, c'est-à-dire que c'est au moins, c'est pas l'exposition film par film avec les mémorabilia qui sont souvent le cas des expositions de cinéastes, que ça éclaire effectivement un côté pas très connu de Gus Van Sant, que soit sa proximité, je disais, avec les poètes de la Beat Generation, certains films rares. Oui, non, mais là, on en a les...
On voit Drugstore Cowboy, quand même.
Oui, mais voilà, mais on en voit le contre-champ, on en voit des preuves tangibles d'une certaine manière.
Ce travail
de photographie de Polaroid, voilà, après, ça aurait mérité d'être plus dialectisé, je dirais, pensé, organisé. Donc, c'est un peu en vrac, c'est-à-dire que ça vous donne à voir ce qu'on pense mieux, effectivement, avec le catalogue, mais au moins, on les voit, ça aurait pu être pire.
Bon, nos souvenirs, le film sort demain, on peut vous en dispenser. L'exposition, vous pouvez y aller, et puis surtout essayer de vous procurer le catalogue, l'exposition Gus Van Sant, Icône Exposition à la Cinémathèque Française jusqu'au 31 juillet, le catalogue Cinémathèque Française, Actes Sud.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte. Get the right.
Et nous concluons à toute vitesse avec le jeu de la dispute. Retour sur le jeu d'hier soir d'abord, Antoine.
Vous avez gagné des invitations pour l'exposition Araki au musée Guimet. Je vous avais demandé quel est le nom de la création réalisée spécifiquement pour le musée par Araki. Il s'agissait de Tokyo Tombeau.
Ce soir, autre exposition, la franc-maçonnerie. C'est jusqu'au 24 juillet à la BNF François Mitterrand à Paris. La question:
quel réalisateur français qui débuta comme monteur, notamment chez Jean Renoir avec On purge bébé ou Marc Allégret pour Fanny, signa en 1943, un virulent film anti-maçonnique qu'on peut d'ailleurs voir dans l'exposition.
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Corinne Rondeau, Noémie Luciani et Antoine Guillot. Merci à l'équipe de la dispute, Hugo Boursier, Daniel Finot, Antoine Guillot, Flora Isidore et Virginie Leduo. Prise de son assurée ce soir par Bernard Laniel, réalisation Daniel Finot. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée aux arts plastiques en compagnie de Yasmine Youssi et Harry Bellet. À notre affiche, Seydou Keïta au Grand Palais, Paula Modersohn-Becker au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris. On évoquera aussi une exposition Aldo Manuzio
Biagio à la Galerie de l'Académie à Venise et puis Bruce Thurman à l'Archevêché d'Arles. Il y aura bien sûr une revue de presse culturelle signée Antoine Guillot, les choix du chef d'orchestre Marc Minkowski, invité de la dispute, et un nouveau cadeau à gagner. Tout cela c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture à 22h15, hors champ par Laure Adler, et dans quelques instants, le journal de la rédaction.